Chapitre 12.
L'opéra, on informa Descartes et Reisch que la répétition avait pris fin et que Mademoiselle Luft était partie.
Est-ce qu'elle a dit où elle comptait se rendre?
Demanda Phil Reisch au machiniste en lui montrant sa carte de policier.
Au musée.
L'employé examina la pièce d'identité.
Elle a dit qu'elle voulait voir l'exposition Edvard Munch qui s'y tient actuellement, elle prend fin demain.
Et Luba Luft prend fin aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous pariez?
Dit Reisch alors que tous deux arpentaient le trottoir vers leur destination.
Elle s'est envolée. On ne la trouvera pas là-bas.
Peut-être,
fit Rick.
Une fois au musée, ils repérèrent l'étage où se déroulait l'exposition Munch et y montèrent pour errer peu après au milieu des peintures et des gravures sur bois. L'événement attirait beaucoup de monde, y compris une classe de lycéens. La voix stridente de leur professeur résonnait dans toutes les salles de l'exposition.
« Voilà ce à quoi on s'attendrait plutôt d'une androïde », songea Rick. « Une voix et une allure pareilles. Et pas Rachel Rosen ou Luba Luft, ni l'homme, la machine qui se trouve à mes côtés. »
« Vous avez déjà entendu parler d'un andro possédant un quelconque animal domestique ?»
lui demanda Reisch. Pour quelque obscure raison, Rick ressentit alors le besoin de se montrer d'une honnêteté brutale. Peut-être avait-il déjà commencé à se préparer à ce qui les attendait.
« Je connais deux cas d'andro qui possèdent des animaux, mais c'est rare. Et si j'en crois ma modeste expérience, c'est généralement voué à l'échec, l'andro se révélant incapable de garder l'animal en vie. Les animaux ont besoin d'un environnement chaleureux pour s'épanouir, sauf les reptiles et les insectes.
Et un écureuil ? Aurait-il besoin d'amour, lui aussi ? Parce que Buffy se porte très bien. Son poil est aussi lustré que celui d'une loutre. Je le toilette et je le peigne tous les deux jours. »
Phil Reisch fit halte devant une peinture à huile qu'il se mit à étudier attentivement. Le tableau représentait une créature oppressée, chauve, avec une tête en forme de poire inversée, les mains crispées d'horreur sur les oreilles, la bouche ouverte en un vaste cri silencieux. Le tourment de cet être, des échos de son cri, se répandait en vagues tortueuses dans l'air alentour. L'homme, ou la femme, quoi qu'il fût, se retrouvait comme enfermé à l'intérieur de son propre hurlement. Il s'était bouché les oreilles pour ne pas entendre sa voix. La créature se tenait sur un pont, sans personne autour d'elle. Elle criait sa solitude, isolée par ou malgré son hurlement.
Il en a fait aussi une sculpture sur bois,
fit remarquer Rick en lisant la carte punaisée sous le tableau.
Je crois, observa Reisch, que c'est ce qu'un andro doit ressentir.
Il se mit à tracer dans les airs des circonvolutions évoquant le cri de la créature du tableau.
Mais ce n'est pas ce que je ressens. Donc peut-être ne suis-je pas un...
Il s'interrompit car plusieurs personnes s'approchaient d'eux.
Voilà Luba Luft.
Rick la désigna du doigt, ce qui mit un terme à la sombre introspection de Phil Reisch. Tous deux s'approchèrent d'elle à pas mesurés, en prenant leur temps, comme si rien n'allait se passer. Comme toujours, il était vital de préserver une atmosphère ordinaire. Les autres humains, conscients de la présence d'androïdes parmi eux, devaient être protégés à tout prix, même celui de laisser échapper sa proie. Un catalogue à la main, vêtu d'un rutilant pantalon en fuseau et d'un haut illuminé de dorure, Luba Luft se tenait absorbée par le tableau devant elle. Le portrait d'une jeune fille aux mains jointes, assise au bord d'un lit, le visage empreint d'une expression à la fois perplexe et apeurée.
« Vous voulez que je vous l'offre ?»
lui demanda Rick. Debout derrière elle, il lui avait mollement saisi le bras, l'informant par la nonchalance même de son geste qu'il la savait à sa merci. Nul besoin pour lui de se forcer. Phil Reisch avait fait de même de l'autre côté sur son épaule. Rick pouvait voir le renflement de son laser dans sa poche. De toute évidence, le chasseur de primes n'avait aucune intention de courir le moindre risque. Pas après ce qui s'était passé avec Garland.
Il n'est pas à vendre.
Luba Luft lui lança un vague regard qui se teinta de violence lorsqu'elle le reconnut. Ses yeux se voilèrent, son visage devint livide, cadavérique, comme s'il commençait déjà à se décomposer, comme si toute vie s'était en un instant retirée au fin fond de son corps, laissant celui-ci à sa condition artificielle. « Je croyais qu'il vous avait arrêté. Vous avez été relâché ?»
Mademoiselle Luft, laissez-moi vous présenter Monsieur Resch.
Phil Resch, voici la célébrissime cantatrice Luba Luft. Puis, à l'adresse de celle-ci, le flic qui m'a arrêté est un androïde, tout comme l'était son supérieur. Vous connaissiez un commissaire Garland ? Il m'a dit que vous étiez tous arrivés en groupe par le même vaisseau.
Le service de police que vous avez appelé, ajouta Phil Resch, celui qui opère depuis un immeuble sur Mission Street, semble être l'agence d'organisation par laquelle votre groupe reste en contact. Ils se sentent même suffisamment sûrs d'eux pour engager un chasseur de primes humain.
Comme vous pouvez vous en douter, il s'agit de vous,
s'exclama Luba Luft.
Vous n'êtes pas humain, pas plus que moi. Vous aussi, vous êtes un androïde.
Un ange passa. Puis Phil Resch se domina pour reprendre.
Eh bien, nous verrons ça en temps voulu.
Puis à Rick. Emmenons-la à ma voiture. Tels deux gardes du corps, ils la poussèrent en direction de l'ascenseur du musée. Luba Luft n'avançait pas de bonne grâce, mais elle n'opposait pas non plus de résistance active. Elle s'était résignée. Rick avait déjà observé pareil phénomène chez les androïdes dans des situations critiques. La force vitale artificielle qui les animait semblait s'effondrer quand on la soumettait à une pression trop forte, du moins pour certains d'entre eux, mais pas tous. Elle pouvait se réveiller. Ainsi qu'il le savait cependant, les androïdes avaient un désir inné de passer inaperçu. Luba Luft ne tenterait rien tant qu'il serait dans le musée, avec tous ces gens qui vagabondaient autour d'eux. L'affrontement véritable, sans doute le dernier pour elle, aurait lieu dans la voiture, à l'abri des regards. Seule, avec une soudaineté effroyable, elle pourrait surmonter ses inhibitions. Rick s'y préparait en prenant bien soin de ne pas penser à Phil Resch. Comme ce dernier l'avait lui-même dit, son cas viendrait sur le tapis en temps voulu. Un petit éventaire avait été installé au bout du couloir à proximité des ascenseurs. On y vendait des reproductions et des livres d'art. Luba Luft s'arrêta devant, histoire de gagner quelques secondes. « Écoutez, » dit-elle à Rick. Son visage avait repris quelques couleurs. Elle semblait à nouveau vivante, du moins temporairement. « Achetez-moi une reproduction du tableau que je regardais quand vous m'avez trouvé. Celui avec la fille assise sur le lit. »
Rick marqua une pause, puis s'adressa à l'employé, une femme au trait lourd entre deux âges, avec des cheveux grisonnants enserrés dans un filet.
« Vous auriez une reproduction de la puberté de Munch ?»«
Uniquement dans ce recueil de ses œuvres, » lui répondit-elle en déposant devant lui un beau volume en papier glacé. « $25.
Je vais le prendre. »
Il se mit en quête de son portefeuille.
« 1 million d'années de budget de mon service ne suffirait pas à... »
fit Resch. C'est de ma poche. »
Rick tendit les billets à la femme, puis le livre à Luba.
« Bon, allons-y maintenant. »«
C'est très gentil de votre part, »
dit Luba tandis qu'il pénétrait dans l'ascenseur.
« Il y a quelque chose de vraiment étrange, de touchant chez les humains. Un androïde n'aurait jamais fait une chose pareille. »
Elle jeta un regard glacial à Phil Resch. Ça ne lui serait jamais venu à l'idée, pas en 1 million d'années. Elle continuait de le fixer, avec une hostilité manifeste désormais.
Je n'aime vraiment pas les androïdes.
Depuis que je suis arrivé de Mars, j'ai passé ma vie à imiter un être humain, à faire ce qu'elle aurait fait, à agir comme si j'avais des pensées et des élans humains, à imiter ce qui pour moi représente une forme de vie supérieure.
Puis, à l'intention de Resch, « Ça a été la même chose pour vous aussi, Resch. Essayez de... »«
Je ne vais pas pouvoir supporter ça, »
Il se mit à farfouiller dans son manteau. « Non !» Rick saisit la main de Resch, qui recula d'un pas pour se dégager.
« Le test Bonelli, » fit-il. « Elle a admis être un androïde. Nous n'avons aucune raison d'attendre. Qu'elle vous ait asticoté ne constitue pas un motif suffisant pour que vous la retiriez. Donnez-moi ça !»
Il se mit à lutter avec Resch pour s'emparer de son laser, qui resta néanmoins en possession de son propriétaire. Resch tourna sur lui-même pour se retrouver adossé contre la paroi de l'étroite cabine, toute son attention concentrée sur Luba Luft.
« D'accord, » fit Rick. « Retirez-la. Tuez-la tout de suite. Montrez-lui qu'elle avait raison. »
Il vit alors que Resch avait bel et bien l'intention de le faire.
« Attendez !»
Phil Resch fit feu. En même temps que Luba Luft, dans un spasme frénétique de bête traquée, se mit à se tordre, à tourner sur elle-même pour se laisser tomber. Le rayon manqua sa cible, mais Resch ajusta son tir pour lui creuser sans un bruit un trou presque invisible dans l'estomac. Tapis contre le mur de l'ascenseur, l'androïde se mit à hurler.
« Comme dans le tableau !»
songea Rick en son fort intérieur, avant de l'achever avec son propre laser. Le corps de Luba Luft s'effondra en avant, comme une masse, face contre terre. Il ne tremblait même pas. Rick utilisa alors le laser pour réduire en cendres fumantes le livre d'art qu'il venait d'offrir à Luba à peine quelques minutes plus tôt. Il œuvra méthodiquement, sans prononcer le moindre mot. Phil Resch le regardait sans comprendre, le visage empreint de perplexité.
Vous auriez pu garder le livre pour vous, fit-il quand ce fut terminé.
Il vous a coûté. Vous croyez que les androïdes ont une âme,
l'interrompit Descartes. Inclinant la tête sur un côté, Resch se mit à le fixer avec davantage encore de perplexité.
Je pouvais me l'offrir,
reprit Rick. J'ai gagné $3,000 depuis le début de la journée, et j'en attends encore autant.
Vous revendiquez Garland? Mais c'est moi qui l'ai tué, pas vous. Vous vous trouviez là, ni plus ni moins. Et pareil pour Luba, c'est moi qui l'ai eu.
Vous ne pouvez rien percevoir. Ni de votre propre service, ni d'une autre. Une fois dans votre aéromobile, je vous administrerai le Bonelli ou le Voidkampf, et on avisera selon le résultat, même si vous ne vous trouvez pas sur ma liste. »
Les mains tremblantes, Rick ouvrit sa mallette et se mit à farfouiller dans les carbones froissés.
« Non, vous n'y êtes pas.
Je ne peux donc pas légalement vous revendiquer. Ainsi, il va bien falloir que je m'arroge Luba Luft et Garland.
Vous êtes sûr que je suis un androïde? C'est vraiment ce que Garland a dit ?
Précisément.
Peut-être qu'il mentait, pour semer le doute entre nous, comme maintenant. Nous sommes cinglés de les laisser ainsi nous diviser.
Vous aviez parfaitement raison à propos de Luba Luft. Je n'aurais jamais dû m'énerver comme je l'ai fait. Je dois être beaucoup trop sensible. Un trait caractéristique des chasseurs de primes, je suppose. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi votre cas. Mais réfléchissez. On aurait eu à retirer Luba Luft de toute façon d'ici une demi-heure, ça n'aurait pas changé grand-chose. Elle n'aurait même pas eu le temps de parcourir le livre que vous lui avez offert.
En parlant de ça, je persiste à croire que vous n'auriez pas dû le détruire, c'est un vrai gâchis.
Je n'arrive pas à suivre votre raisonnement, sans doute parce qu'il n'est pas rationnel.
Je vais changer de boulot,
déclara Rick.
Et pour faire quoi?
N'importe quoi. Courtier en assurance, comme Garland était censé l'être.
Ou alors je vais immigrer,
oui.
Il hocha la tête. Aller sur Mars.
Mais il faut bien que quelqu'un se charge de ça, lui fit remarquer Resch.
Ils peuvent toujours utiliser des androïdes.
Ce serait tellement mieux si c'était des andros qui s'en chargeaient.
Moi, je ne peux plus. J'en ai assez.
Luba Luft était une chanteuse merveilleuse. La planète aurait pu profiter de ses talents.
C'est insensé.
C'est nécessaire. N'oubliez pas, ils ont supprimé des humains pour parvenir à s'échapper. Et si je ne vous avais pas fait sortir du poste de police de Mission Street, ils vous auraient tué vous aussi.
C'est ce que Garland voulait que je fasse. C'est pour ça qu'il m'a fait descendre dans son bureau. Polokhov n'a-t-il pas failli vous tuer? Luba Luft? Nous agissons en légitime défense, car c'est sur notre planète qu'il se trouve. Ce sont des étrangers meurtriers en situation irrégulière qui se font passer pour des policiers.
L'interrompit Rick. Des chasseurs de primes.
D'accord. Faites-moi passer le test Bonelli. Garland a peut-être menti. J'en mettrai ma main à couper. De faux souvenirs ne peuvent pas être aussi parfaits. Et quid de mon écureuil?
Ah oui, votre écureuil. Je l'avais oublié, celui-là.
Si je suis un andro et que vous me tuez, vous pourrez le récupérer. Tenez, je vais le mettre par écrit que je vous le lègue.
Les andros ne peuvent rien léguer. Ils n'ont aucune possession qu'ils puissent léguer.
Eh bien, contentez-vous de le prendre dans ce cas.
Peut-être bien.
Féric.
L'ascenseur avait atteint le rez-de-chaussée à présent. Ses portes s'ouvrirent.
Restez avec Luba. Moi, je vais faire venir une voiture ici pour l'emmener au palais de justice,
pour l'analyse de moelle.
Il pénétra dans une cabine téléphonique, glissa une pièce dans l'appareil et composa le numéro d'une main tremblante. Pendant ce temps, les gens qui attendaient l'ascenseur s'étaient regroupés autour de Resch et du corps de Luba Luft.
C'était vraiment une superbe chanteuse,
se dit-il en raccrochant le combiné.
Je ne comprends pas. Comment un talent pareil peut-il constituer un handicap pour notre société? Mais ce n'était pas son talent le problème, c'était elle-même. Tout comme Phil Resch, il constitue une menace en tout point comparable, et pour les mêmes raisons. Je ne peux donc pas laisser tomber maintenant.
Une fois sorti de la cabine, il se fraya un chemin à travers la foule pour rejoindre Phil Resch et le corps de l'androïde étendu face contre terre. Quelqu'un l'avait recouvert d'un manteau. Pas Resch. Il rejoignit Phil Resch qui se tenait à l'écart à fumer énergiquement un petit cigare gris.
« Je prie le ciel pour que le test révèle que vous êtes un androïde. »«
Vous me détestez vraiment ?»
s'étonna Resch.
Et c'est venu d'un coup. Ce n'était pas le cas à Mission Street, quand je vous sauvais la vie.
Je perçois une espèce de schéma. La façon dont vous avez tué Garland, puis Luba Luft. Vous ne tuez pas de la même manière que moi. Vous n'essayez pas de... Merde.
S'exclama-t-il, j'ai enfin compris.
Tuer vous fait plaisir. Tout ce qu'il vous faut, c'est un prétexte. Si vous aviez un prétexte, vous me tueriez. Voilà pourquoi vous avez envisagé que Garland soit un androïde. Ça le rendait tuable. Je me demande ce que vous allez faire quand vous aurez échoué au Bonelli. Vous allez vous tuer? Certains androïdes le font parfois, mais rarement.
Oui. Et je m'en chargerai, répondit Phil Resch. Vous n'aurez rien à faire à part me tester.
Une voiture de patrouille arriva. Deux policiers en sautèrent pour fendre aussitôt la foule avec autorité. L'un d'eux, reconnaissant Rick, lui adressa un signe de tête.
On peut enfin y aller,
se dit Rick.
On en a enfin terminé ici, pas trop tôt.
Tous deux entreprirent donc de redescendre la rue qui menait à l'opéra pour récupérer leur véhicule.
Je vais vous confier mon laser, fit Resch chemin faisant, histoire que vous n'ayez pas à redouter ma réaction au résultat du test pour votre propre sécurité.
Il tendit l'arme à Rick qui l'accepta.
Comment allez-vous vous tuer sans ça, si vous échouez au test?
Je retiendrai ma respiration.
C'est impossible, nom de Dieu.
Chez un androïde, expliqua Resch, il n'y a pas de coupure réflexe du nerf pneumogastrique, comme chez un être humain. On ne vous a donc pas appris ça pendant votre formation? Ça fait des années que je le sais.
Mais mourir de cette manière, protesta Rick.
C'est sans douleur. En quoi est-ce que ça vous choque?
C'est...
Il fit un geste de la main, incapable de trouver le mot juste.
Ce n'est pas comme si je pensais vraiment devoir le faire, objecta Resch.
Tous deux gagnèrent le toit de l'opéra où Phil avait garé son aéromobile.
Je préférerais que vous utilisiez le Bonelli, dit-il après s'être glissé derrière le volant.
Impossible, je ne sais pas le déchiffrer. Et ça me mettrait à ta merci pour interpréter les résultats,
se dit-il.
Hors de question.
Vous me direz la vérité, hein? Si je suis un androïde, vous me le direz?
Bien sûr.
Parce que je veux vraiment savoir. Il faut que je sache.
Après avoir rallumé son cigare, il se glissa dans le siège baquet du véhicule, essayant de se mettre à l'aise, en vain de toute évidence.
« Vous aimiez vraiment ce tableau de Munch que Loubalouf regardait ?»
s'enquit-il.
« Personnellement, il ne me plaisait pas du tout. Le réalisme dans l'art ne m'intéresse pas. J'aime Picasso et… »
« La puberté date de 1894 », coupa sèchement Rick. Rien n'existait à part le réalisme à l'époque. Vous devez prendre ça en compte.
Mais l'autre, avec le type qui hurlait en se tenant les oreilles, ce n'était pas du figuratif.
Rick ouvrit sa mallette et en extirpa son matériel de test.
« C'est complexe »,
fit remarquer Phil Resch qui l'observait.
« De combien de questions avez-vous besoin avant d'être fixé ?»«
6 ou 7. »
Il lui tendit le tampon adhésif. « Collez-vous ça sur la joue. N'hésitez pas à appuyer. » « Et cette lumière ?» Il braqua la lampe sur lui. « Elle doit rester droit sur votre œil, ne bougez pas. Gardez les yeux aussi fixes que possible. »
« Variation réflexe, »
fit Resch avec perspicacité.
« Mais pas aux stimuli physiques. »
Vous ne mesurez pas la dilatation, par exemple. Ça teste les réactions aux questions orales, les tressaillements.
Vous croyez pouvoir la contrôler ?
Lui demanda Rick.
Pas vraiment.
En fin de compte, peut-être. Mais pas l'amplitude initiale. C'est inaccessible au contrôle conscient. S'il n'y avait pas...
Il s'interrompit.
Allez-y. Je suis nerveux, excusez-moi si je parle trop.
Parlez autant que vous voudrez, fit Rick.
Parle jusqu'à ce qu'on t'enterre si ça te chante.
Peu lui importait.
Si je suis bel et bien un androïde, jacassa Phil Resch, ça va vous redonner confiance en la race humaine. Mais comme ça ne va pas finir comme ça, je ne saurais trop vous suggérer de commencer à concevoir une justification idéologique qui tienne compte de...
Première question, l'interrompit Rick.
L'appareil était à présent sous tension, et les aiguilles des deux cadrans se mirent à osciller. Le temps de réaction constitue un facteur, donc répondez aussi vite que vous le pourrez. Il sélectionna de mémoire une première question. Le test avait commencé. Rick resta un moment assis en silence après en avoir terminé. Puis il entreprit de rassembler l'appareillage pour le fourrer dans sa mallette.
« Je peux deviner le résultat à la tête que vous faites. »
Phil Resch poussa un soupir de soulagement absolu, profond, presque convulsif.
« D'accord. Vous pouvez me rendre mon arme. »
Il tendit une main grande ouverte, impatiente.
« Vous aviez manifestement raison, » fit Descartes à propos des intentions de Garland. « Il voulait bel et bien nous diviser. »
Il se sentait épuisé, tant psychologiquement que physiquement.
Vous avez préparé votre justification idéologique,
s'enquit Resch, qui expliquerait mon appartenance à la race humaine?
Il y a une anomalie dans vos réactions empathiques, quelque chose pour lequel nous n'avons pas de test. Vos sentiments à l'égard des androïdes.
Bien sûr qu'il n'y a pas de test pour ça.
On devrait peut-être en concevoir un.
Rick n'y avait jamais songé auparavant. Jamais lui-même n'avait ressenti la moindre empathie pour les androïdes qu'il tuait. Il avait toujours présumé que son inconscient percevait un androïde comme une machine intelligente, de la même manière que sa conscience. Et pourtant, à l'inverse de Phil Resch, les deux avaient fini par diverger. Et il sentait instinctivement qu'il était dans le vrai.
De l'empathie
pour une construction artificielle? Pour quelque chose qui fait seulement semblant de vivre? Mais Loubalouft lui avait paru parfaitement vivante, sans la moindre trace de simulation.
« Vous vous rendez compte ?» fit posément Resch. « Des conséquences que ça aurait ? Si on incluait les androïdes dans notre gamme d'identification empathique, comme nous le faisons pour les animaux ?»«
Il n'y aurait plus rien pour nous protéger. »«
Absolument. Ces Nexus 6, ils nous écraseraient tous et nous réduiraient en bouillie, vous et moi, tous les chasseurs de primes. » »«
Nous nous tenons entre les Nexus 6 et l'humanité, nous formant une barrière qui garde les deux distincts. »
Sans compter, il s'interrompit en voyant Rick ressortir son appareillage.
« Je croyais que le test était terminé. Je veux me poser une question. »
fit Rick.
« Et je veux que vous me disiez ce qu'enregistrent les aiguilles. Tenez-moi juste l'étalonnage. Ça me suffira pour faire le calcul. »
Il se colla le disque adhésif sur la joue, puis braqua le faisceau lumineux droit sur son œil.
Vous êtes prêts? Regardez les cadrans. Nous n'allons pas tenir compte du laps de temps cette fois, je veux juste la magnitude.
Bien sûr, Rick, dit obligeamment Phil Resch. Descartes se lança.
Je suis dans un ascenseur avec un androïde que je viens de capturer. Soudain, sans crier gare, quelqu'un le tue.
Pas de réaction particulière, fit Resch.
Jusqu'où les aiguilles sont-elles montées?
La gauche, 2,8. La droite, 3,3.
Avec une androïde.
Maintenant, elles montent respectivement à 4,0 et 6.
C'est assez haut.
Rick ôta le disque de sa joue et éteignit le rayon lumineux.
Il s'agit d'une réaction clairement empathique, à peu près ce qu'on obtient pour la plupart des questions posées à des sujets humains, sauf pour les plus extrêmes, celles qui traitent de peau humaine utilisée comme des décorations par exemple, les questions vraiment pathologiques.
Ce qui veut dire
que je suis capable d'éprouver de l'empathie pour au moins un type spécifique d'androïde, pas pour tous, mais au moins un ou deux. Pour Loubalouft, par exemple. J'avais donc tort. Il n'y a rien d'anormal ou d'inhumain dans les réactions de Phil Resch. C'est moi le problème. Je me demande si un quelconque humain a déjà ressenti la même chose pour un androïde. Bien sûr, il y a des chances que ça ne se reproduise plus jamais, que c'ait été une simple anomalie. Peut-être quelque chose en rapport avec ce que je ressens pour la flûte enchantée et pour la voix de Loubalouft, pour l'intégralité de sa carrière en fait. Ça ne m'est certainement jamais arrivé auparavant, jamais je ne m'en suis aperçu en tout cas, pas avec Polokov, ni avec Garland. Et, se rendait-il compte, si Phil Resch s'était révélé être un androïde, j'aurais pu le tuer sans rien ressentir. Pas après la façon dont Luba est morte. Autant pour la distinction entre les êtres humains authentiques et les artefacts humanoïdes. Dans cet ascenseur, au musée, je me trouvais avec deux créatures, l'une humaine, l'autre androïde, et mes sentiments étaient exactement l'inverse de ceux auxquels j'aurais pu m'attendre, de ceux que j'ai l'habitude d'éprouver, de ceux qu'il me faut éprouver.
« Vous êtes dans la merde, Descartes. » Resch semblait trouver ça amusant.
« Qu'est-ce que je devrais faire ?»«
C'est une question de sexe. »«
De sexe ? » ?»«
C'est parce qu'elle était physiquement attirante. »« Ça ne vous est jamais arrivé auparavant ?»
Resch éclata de rire.
« On nous a appris que ça constituait un problème majeur pour les chasseurs de primes. » »«
Descartes. » Vous savez bien qu'ils ont des maîtresses androïdes dans les colonies. C'est illégal,
fit Rick, parfaitement au fait de la question.
Bien sûr que c'est illégal, comme la plupart des déviations sexuelles, ce qui n'empêche pas les gens de le faire quand même. Et l'amour dans tout ça?
L'amour est un synonyme de sexe.
Mais l'amour de la patrie, l'amour de la musique.
Si on parle d'amour pour une femme ou une imitation androïde, c'est du sexe. Réveillez-vous, Descartes. Regardez-vous en face. Vous avez eu envie de coucher avec un modèle féminin d'androïde, ni plus ni moins. Ça m'est également arrivé à une occasion. Je venais de commencer ma carrière de chasseur de primes. Ne vous laissez pas abattre. Vous allez vous en remettre. Ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez pas pris les choses dans le bon sens. Il ne faut pas la tuer ou assister à sa mort pour vous rendre compte ensuite qu'elle vous attirait physiquement. C'est le contraire qu'il faut faire. Rick le dévisagea. Coucher d'abord avec elle, puis la tuer, conclut succinctement Phil Resch, qui arborait toujours son gros sourire crispé.
Tu es un bon chasseur de primes, reconnut Rick. Ton attitude suffit à le prouver. Mais moi...
Soudain, pour la première fois de sa vie, il avait commencé à se poser la question.